Le cri du Kevit. Le cri du Kevit, une émission préparée, animée et réalisée par l'association indépendante Outland Nature. Le cri du Kevit vous parlera ce soir des oiseaux en hiver. Bonsoir tout le monde, donc le thème de l'émission de ce soir, les oiseaux en hiver, avec Lydie à la technique, Bart et Thierry.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bart et Thierry qui sont aussi membres du GON.
Tout à fait.
Donc ils nous diront quelques mots. Donc les oiseaux en hiver, bon, il n'y a pas 36 solutions, ou ils restent là ou ils s'en vont. Ça sera en gros le fil rouge de cette émission.
C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va rentrer dans
oui,
les détails.
Oui, évidemment, c'est plus compliqué que ça. La nature, c'est forcément compliqué. Alors, Bart,
Thierry, Michel.
Et moi.
Et Lydie.
Bonsoir à tous. Les oiseaux en hiver, bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais on sent que la préparation a bien démarré.
Ben, nous, on le sent pas encore. C'est vrai qu'une journée comme aujourd'hui, on a du mal à croire que l'hiver est dans moins de 3 mois. Mais les oiseaux s'y préparent déjà depuis quelques semaines. On voit quelques passages déjà migratoires depuis pas loin d'un mois. Là.
Et vous avez peut-être pu déjà observer l'absence des hirondelles au-dessus des villages. Il y en avait encore à peu près une centaine au-dessus de chaque village. Voilà, j'exagère un peu, mais une bonne dizaine au moins au-dessus de chaque village, il y a encore une dizaine de jours. Et là, les hirondelles sont quasiment désertées l'ensemble de nos villages.
Bon, c'est le premier témoin, disons, hein, le départ des hirondelles.
Alors, c'est pas tout à fait le premier témoin. Il y a des espèces qui sont déjà passées au mois d'août. Il y a certaines espèces, le mois d'août, c'est déjà la période de retour. Je pense par exemple à la cigogne noire, alors qu'on trouve très très rarement chez nous. Mais ce sont des espèces qui vont arriver très tard en saison, qui vont nicher très très vite. Et généralement, au plus les oiseaux arrivent tard en migration au printemps, généralement au plus vite, ils repartent à la fin de l'été, début de l'hiver.
Enfin, voulais surtout dire, l'hirondelle, c'est le symbole, quoi, hein, pour le public lambda.
Tout à fait.
Voilà.
L'hirondelle fait peut-être pas le printemps, mais elle fait l'automne.
Oui, bon, eh ben ça, on en parlera pour un prochain film. Hein. Alors, en dehors de la cigogne noire, dans tes récentes observations, Bart, est-ce que tu as une migration ?
Alors, tout à fait. Alors, la migration, c'est un phénomène qui est évidemment assez bien étudié ici au niveau local, notamment sur le Dunkerquois, puisque le Dunkerquois a la chance d'être sur l'une des routes majeures de migration au niveau européen. Évidemment, ça attire énormément d'ornithologues, donc de personnes qui étudient les oiseaux, et notamment de nombreux membres du GON, donc le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi est-ce que le Dunkerquois est l'un des sites majeurs en Europe et surtout en France pour la migration des oiseaux? C'est surtout qu'on est à la croisée de deux grandes routes de migration. La première, c'est la route qui va longer l'ensemble des mers, on va dire depuis la Baltique jusqu'à la mer du Nord, et qui va descendre le long du littoral, donc via l'océan Atlantique, rejoindre Gibraltar. Et on a aussi la chance d'être à la confluence d'une autre route un petit peu plus secondaire, mais qui viendra plutôt du Groenland, d'Islande et de l'Angleterre. Et donc tous ces oiseaux qui vont également passer plutôt vers le Calaisie Dunkerquois et qui vont descendre également ensuite le long du littoral. Alors en Europe, il y a d'autres routes migratrices qui sont peut-être plus importantes, c'est notamment ce qu'on appelle la route du Bosphore. Si je ne me trompe pas, Thierry, c'est bien ça. Qui se situe donc plutôt sur la route du sud-est de l'Europe. Pourquoi est-ce que les oiseaux passent plutôt au-dessus des terres plutôt qu'en mer? C'est simplement pour trouver de la nourriture, c'est beaucoup plus facile. La plupart des oiseaux sont quand même des oiseaux plutôt terrestres. Les oiseaux marins, on en reparlera tout à l'heure, mais ils sont quand même beaucoup plus rares et plus localisés. Donc la plupart des oiseaux vont préférer les routes terrestres. Et le littoral présente un paysage qui est quasiment resté immuable depuis des décennies, des siècles, des millénaires. Et donc forcément, c'est dans les gènes des oiseaux de passer le long du littoral, même si par-ci, par-là, il y a peut-être des emprises portuaires qui ont gagné un petit peu sur la mer. Parfois un peu beaucoup. Mais en gros, le trait de côte ne change pas. Et ce qui est intéressant, par exemple, si on regarde les passereaux, c'est que les passereaux ne vont pas longer les infrastructures portuaires, mais ils vont encore utiliser l'ancien trait de côte qui existait il y a 50, 60 ans.
Rappelle-moi ce qu'est un passereau.
Alors un passereau, ce sont les oiseaux qui chantent, qui ont vraiment un chant. Donc ce sont généralement les petites espèces. On distingue généralement les passereaux des non-passereaux. Du coup, dans les non-passereaux, on aura tout ce qui est oua, on aura les canards, on aura les hérons, les grèbes, on aura la plupart des oiseaux marins. Les rapaces, mais la plupart des oiseaux communs de nos jardins sont des passereaux.
Alors, quand on parle migration, j'évolue toujours au niveau du public lambda. Ce sont les oies, les canards,
l'ensemble des espèces. Alors, on distingue trois grands types d'oiseaux. On a les oiseaux sédentaires, on a les oiseaux migrateurs et on a les oiseaux hivernants. Les oiseaux sédentaires sont les oiseaux qu'on va pouvoir voir toute l'année dans nos contrées. Ça va être le cas, par exemple, du moineau domestique, ça va être le cas du merle noir, ça va être le cas de la maison charbonnière. Ces oiseaux sont dits sédentaires, c'est-à-dire que toute l'année, on peut les trouver chez nous. Les oiseaux hivernants sont les oiseaux qu'on ne verra uniquement en période hivernale, donc durant la période d'hiver, donc ça s'échelonne selon les espèces de début septembre, début novembre jusque fin janvier, fin mars, ça dépend vraiment les espèces, d'où ils viennent, où ils vont, le temps qui reste. Et les espèces migratrices sont les espèces qui vont nicher au nord de l'Europe, mais qui vont également passer l'hiver au sud de l'Europe, enfin en tout cas pas chez nous, donc généralement en Afrique. Donc ces oiseaux-là, on ne les voit que sur les routes migratrices, donc au printemps, mais surtout à l'automne. Donc la route d'automne étant souvent plus importante en termes d'effectifs d'oiseaux, puisque la plupart des oiseaux sont allés nicher dans le Grand Nord, ils ont les jeunes, et donc pour un couple qui est remonté l'Europe au début printemps. Du printemps, ils sont peut-être 5-6 à y retourner. Donc on a beaucoup plus d'oiseaux qui descendent à l'automne que d'oiseaux qui montent au printemps. Alors ça se complique évidemment, ça aurait été beaucoup trop simple s'il n'y avait que ces trois patterns de typologie d'oiseaux, puisque parmi les oiseaux sédentaires, si on va prendre le cas de la maison charbonnière, on a les maisons charbonnières qui nichent chez nous, qui vont rester plutôt l'hiver dans nos contrées également, mais on a l'hiver tous les contingents d'Europe du Nord qui vont descendre également. Et donc certaines espèces qui sont relativement courantes, on va dire, durant l'été en période de reproduction, sont beaucoup, beaucoup plus communes l'hiver parce qu'on a des millions d'oiseaux qui descendent du nord de l'Europe avant la mauvaise saison.
Bon, donc la migration, c'est poussé par la faim. Hein ?
Alors, la migration est essentiellement
pas le régime alimentaire.
Tout à fait. Donc, la migration, donc c'est vraiment le manque de nourriture qui fait que les oiseaux vont commencer à migrer. Alors, c'est pas tout à fait le manque de nourriture puisque généralement les oiseaux migrent bien avant qu'il n'y ait plus à manger. C'est généralement des paramètres tels que l'ensoleillement, la durée de la journée, la température qui commence à baisser, qui font dire que les oiseaux doivent commencer à migrer.
Voilà, apparemment, d'après certaines études, c'est un phénomène hormonal. Selon la durée du jour, comme tu dis, de l'ensoleillement, ça modifie les hormones qui donne le signal de départ aux oiseaux. Comme Bart l'a dit tout à l'heure, on voit pratiquement plus d'hirondelles sur le territoire, alors qu'il y a encore pas mal d'insectes actuellement. Les conditions climatiques sont propices aux insectes encore actuellement, mais ils prennent les devants, les jours allongent, il est l'heure de partir.
Et donc effectivement la plupart des espèces qui vont migrer sont quand même des espèces qui n'arriveront pas du coup à adapter leur régime alimentaire aux conditions hivernales, notamment dans le nord de l'Europe.
Surtout des espèces insectivores.
Donc c'est surtout les oiseaux insectivores, évidemment, puisqu'ils ne trouvent plus d'insectes l'hiver. Alors il faut faire attention parce que la mésange charbonnière ou le troglodyte, et surtout le cas du troglodyte, sont quand même des oiseaux qu'on dit insectivores, qui se nourrissent d'hiver et qu'on voit quand même l'hiver chez nous. Donc c'est surtout les oiseaux insectivores qui vont se nourrir d'insectes volants, qui n'arriveront pas à trouver leur nourriture et qui vont descendre vers le sud. Les oiseaux qui vont se nourrir, notamment, ça va être le cas d'araignées, ça va être le cas de petites bêtes comme ça qu'on peut encore trouver l'hiver, eux peuvent encore rester chez nous.
Oui, il y a une adaptation de certaines espèces.
Donc une adaptation, pas forcément. Le troglodyte va se nourrir vraiment d'invertébrés tout au long de l'année. Ça va être quasiment les mêmes invertébrés dont il va se nourrir tout au long de l'année, sauf que ces invertébrés sont encore bien présents pour lui en période hivernale. Par contre, tout ce qui est moustique, tout ce qui va être moucheron qui vont voler, eux ne sont plus assez présents ou plus en assez grande densité pour nourrir les oiseaux, et c'est pour ça qu'ils vont descendre.
Et c'est pour ça que certains oiseaux retournent la mousse pour récupérer en fait tous les insectes qu'il y a dedans pendant l'hiver.
C'est ça. Alors ils le font également en période estivale. Ça dépend vraiment les oiseaux. On est bien obligé d'essayer de généraliser, de faire des typologies des oiseaux. Mais chaque espèce d'oiseau a son propre pattern de migration. C'est-à-dire que chaque espèce d'oiseau aura sa propre aire de nidification, aura sa propre aire d'hivernage, aura sa propre période de migration, aura sa propre route migratoire. Mais on est obligé, pour essayer de simplifier les choses, de faire des typologies. Et donc les oiseaux qui nichent dans le nord de l'Europe, qui descendent au sud de l'Afrique, sont dits les migrateurs transsahariens. Après, chaque espèce de migrateur transsaharien aura sa propre biologie, sa propre écologie, sa propre façon de migrer, c'est tout ça. Donc c'est vraiment un phénomène qui est très très complexe, qui est propre à chaque espèce, et dont on essayera ce soir de mieux vous expliquer.
Radio Alain Spiegel, 91.8 FM. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur la toile, comme on dit, alainspiegel.be.cx, et on écoute Blue Oyster Cult. We'll be right back. Don't Fear the Reaper par le groupe Blue Oyster Cult, mais ça remonte à 1976. Radio Alain Spiegel, l'émission Un cri du Kevit. Le thème de ce soir, le disais-je, les oiseaux en hiver, et on évoquait pour les oiseaux le changement de régime alimentaire, quoi, comment ils se comportaient face à l'arrivée de cette nouvelle saison.
Ben, enfin, en fait, jusqu'à présent, on parlait des oiseaux qui ne changent pas vraiment leur régime, les insectivores qui restent insectivores, mais qui mangent une catégorie d'insectes qu'ils peuvent trouver aussi bien en été qu'en hiver, notamment tout ce qui n'est pas volant, les insectes qui ne sont pas volants, araignées, cloportes, larves dans les écorces de bois. Mais il y a d'autres oiseaux qui ont la particularité de pouvoir changer leur régime alimentaire selon les saisons, ce qui leur permet de ne pas faire de voyages migratoires. Je pense notamment aux mésanges charbonnières ou mésanges bleus qu'on voit très facilement dans nos mangeoires. Si vous mettez des mangeoires dans votre jardin, c'est un des principaux oiseaux que vous pouvez observer. Donc en printemps et en été, ils consomment des insectes, et notamment des chenilles pour nourrir ses jeunes. Mais quand ces insectes viennent à manquer, il peut changer son régime alimentaire et se nourrir de graines, de baies, de graisses, d'aliments qu'on met à sa disposition. C'est l'exemple le plus connu d'un mésange, mais il y a d'autres oiseaux qui ont cette possibilité de changer de régime. Le rouge-gorge également, je pense.
Le rouge-gorge, il y a le moineau domestique, le merle noir également, puisqu'il se nourrit essentiellement de vers de terre en période de reproduction. Il est plutôt, il va plutôt se nourrir de baies en période automnale et hivernale. Je pense que la plupart des oiseaux qui sont sédentaires peuvent changer leur régime alimentaire, à l'exception des oiseaux piscivores qui se nourrissent que de poissons. Et il ne doit y avoir que le pique-pêche, je pense, enfin tout ce qui est famille des piques, qui doivent continuer à trouver leurs insectes xylophages, donc qui se nourrissent de bois mort. Sinon, je pense que tous les autres oiseaux, sauf les granivores purs, mais des granivores purs, donc des oiseaux qui se nourrissent que de graines, on en a très très peu. On n'a que le bruant proyer.
Chardonneret, non ?
Chardonneret, il est insectivore aussi, je pense, en période estivale. Ouais. Donc il y a vraiment très peu d'oiseaux. Je pense que la plupart des oiseaux sédentaires arrivent quand même à changer leur régime alimentaire, ou au moins à le diversifier un petit peu plus en période hivernale.
Une espèce piscivore, tu disais, par exemple. Le martin pêcheur.
Voilà. Le martin pêcheur, le grand cormoran sont des espèces qui vont nicher chez nous et qui vont se nourrir que de poissons toute l'année.
Alors, ce qui leur pose de gros problèmes quand on a des hivers rudes comme on a eu dernièrement, l'année dernière, les populations nicheuses de martins pêcheurs du secteur ont périclité. Et étant donné que les canaux et les plans d'eau où ils pouvaient se nourrir, pêcher du poisson, ont été gelés et ils n'ont pas survécu.
Et comme c'est des oiseaux qui n'ont pas l'habitude d'hiverner, puisqu'ils passent l'hiver chez nous d'habitude,
de migrer.
Ils ont effectivement, toutes les populations ont disparu, et ça peut mettre parfois 4-5 ans avant de retrouver des populations un petit peu plus conséquentes.
C'est un oiseau qu'on observe quand même pas si facilement que ça, le martin pêcheur. Et bon, il me fait penser qu'un des derniers numéros de la Hulotte en parle très très bien. Donc c'est une façon aussi de s'intéresser.
Et de parler du magazine.
Et de parler du magazine, mais il pense qu'il n'y a aucune contestation possible quant à l'intérêt de cette revue. Bon, je dirais presque scientifique d'une certaine façon, qui est très didactique, très abordable par tout le monde.
Donc c'est vrai qu'on parlait du martin pêcheur. Alors même au sein d'une même espèce, il y a, j'ai envie de dire, des individus qui doivent être un petit peu plus malins que les autres, puisqu'on peut, en période hivernale, enfin en période de migration, du moins voir quelques martins pêcheurs parfois en migration. C'est très très rare, c'est souvent à l'unité, c'est difficile à savoir si c'est vraiment de la migration ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est si on se balade dans le port de Dunkerque en plein hiver, on peut trouver des martins pêcheurs alors qu'ils ne nichent pas. Et donc, ce sont forcément, enfin, il y a de grandes chances que ce sont des individus qui sont, eux, pour le coup, hivernants, donc qui viennent peut-être du nord de l'Europe. Et là, c'est pareil, est-ce que les martins pêcheurs qui hivernent, enfin, qui nichent dans le nord de l'Europe ne sont-ils pas un peu plus migrateurs que ceux qui hivernent chez nous? Il y a encore énormément de données qu'on ne connaît pas. Il n'y a que le bagage qui permettrait d'en savoir un petit peu plus. Mais comme tu le disais, Thierry, ce sont des animaux quand même qu'on ne voit rarement. Et pour baguer des martins pêcheurs, à mon avis, ça ne doit quasiment jamais arriver.
Donc l'hivernant, on rappelle, en fait, il a migré, mais il fait une étape et il reste là, quoi, pour passer l'hiver. Il descend plus bas.
Voilà, donc ça, c'est un migrateur. Il descend plus bas si c'est un migrateur, mais par contre, s'il vient du nord, qu'il s'arrête chez nous, ça, c'est un hivernant.
Il fait une étape, il reste là, quoi. Ça,
et là, c'est encore plus compliqué parce que certaines espèces peuvent hiverner chez nous, mais s'il fait trop froid, elles peuvent descendre un petit peu plus au sud.
Voilà, il y a encore une catégorie dont on n'a pas encore parlé, c'est ce qu'on appelle les oiseaux erratiques. C'est-à-dire qu'ils migrent uniquement s'ils sont contraints de le faire. Si les conditions hivernales ne sont pas trop dures, ils peuvent rester dans la région, mais si l'hiver se durcit, ils peuvent descendre un peu plus au sud pour trouver de quoi se nourrir. Ce ne sont pas des migrateurs stricts, s'ils le font uniquement s'ils sont contraints à le faire.
Il y a des espèces plus ou moins prédisposées à erratiques, à être erratiques, non?
Je pense pas qu'il y a vraiment d'espèces à proprement parler erratiques. Je pense qu'il y a plus certaines populations d'espèces, donc selon leur aire de répartition, qui peuvent être erratiques selon les conditions. On l'avait dit dès le début, la migration est vraiment un phénomène qui est très très compliqué. On peut pas généraliser, même au sein d'une même espèce, le pattern de migration. C'est totalement impossible.
C'est comme tu disais tout à l'heure, les populations de mésanges nordiques qui passent l'hiver chez nous, par exemple, mais celles qui sont nées ici ne vont probablement pas bouger malgré la mauvaise saison.
Et effectivement, on remarque au plus un oiseau va nicher au nord de l'Europe, au plus il va descendre dans le sud de l'Europe, voire l'Afrique, pour passer l'hiver. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que les oiseaux, la maison charbonnière qui niche dans le Grand Nord, vient chez nous passer l'hiver, et que les oiseaux de chez nous vont en Afrique. C'est pas du tout le cas. Les maisons charbonnières sont probablement sédentaires chez nous et vont voir passer le flux de contingent des populations qui nichent dans le Grand Nord, mais qui vont passer l'hiver plus au sud. Et c'est pour cela, on pense que les oiseaux vont réentamer une seconde période de chant à l'automne. Vous savez que les oiseaux chantent beaucoup plus au printemps pour défendre la nourriture, enfin pour défendre leur territoire, pour attirer les femelles. Et on remarque souvent que les oiseaux auront une seconde période de chant un petit peu plus faible, mais assez conséquente quand même. Tous les matins, on les entend bien à l'automne.
Oui, ils n'ont plus besoin d'attirer les femelles.
Je dis, c'est le cas actuellement. On entend pas mal de troglodytes, accenteurs mouchés, rouge-gorge, mais ça c'est un cas particulier, ils chantent pratiquement tout le temps.
Et on se demande si c'est pas justement les oiseaux sédentaires qui restent chez nous, qui vont défendre leur territoire quand ils voient tous ces migrateurs arriver, pour éviter de se faire piquer la place durant l'hiver.
Là on parle plus que de défense de territoire, il n'y a plus question de conquérir.
Il n'y a plus du tout de parade par nuptiale.
Radio Lengspiel 91.8.
En parlant de chant.
On va parler de chant et un chanteur français qui est disparu il y a quelque temps, et Alain Bachoun.
Il est 6 heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envole, il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile et nous retrouverait, nous retrouverait. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Je lui dirai. Je lui dirai.
Alain Bachung et son énorme sensibilité pour une reprise d'une chanson de Christophe, très connue, Les mots bleus, une reprise qu'il avait assurée en 1989. Radio Allen Spiegel, 91.8 FM, le cri du Kévit, assuré par l'association indépendante Outland Nature, avec aujourd'hui deux invités officiels, hein, qui du GON, du groupe ornithologique
et naturaliste. Du Nord et du Pas-de-Calais.
Du Nord et du Pas-de-Calais. Alors, on avait déjà évoqué le sujet l'hiver. Et question, comment les oiseaux hivernants donc font face à cette rigueur de l'hiver?
Ils mettent un pull en plus.
Ils mettent un pull en plus, voilà.
Ils mettent un petit bonnet.
Ils se gonflent un peu les plumes, oui. Bon.
Alors, tout à fait.
Et un édredon en duvet.
Donc, le fait de pouvoir gonfler leurs plumes, ça, c'est effectivement l'une des premières parades face aux rigueurs de l'hiver. Beaucoup d'oiseaux vont déjà muer durant l'automne. Donc du coup, ils auront des plumes un petit peu plus denses, un petit peu plus chaudes pour passer l'hiver. Généralement, si vous regardez, les plumages sont aussi souvent beaucoup plus ternes en hiver que l'été. On dit toujours, durant la période de reproduction, les mâles sont souvent très colorés, ils dorent de belles couleurs pour pouvoir attirer les femelles en période de reproduction, donc au printemps et l'été. Et la plupart des oiseaux, mâles et femelles, auront un dimorphisme sexuel beaucoup moins marqué. Un dimorphisme sexuel, c'est quand le mâle et la femelle n'ont pas les mêmes plumages. Et c'est vrai que souvent...
Exemple
le col vert qui est quasiment... Le mâle et la femelle sont quasiment indifférenciables durant la période hivernale. Et c'est vrai pour énormément d'oiseaux. Alors, c'est pas vrai pour tous les oiseaux, hein, la fauvette à tête noire ou la maison charbonnière, par exemple. On peut toujours faire la distinction en hiver. Mais il y a beaucoup d'oiseaux quand même qui perdent leur belle couleur terne. Et j'ai une fois lu que le fait de perdre leur belle couleur colorée, le fait d'avoir des couleurs beaucoup plus ternes, souvent beaucoup plus marron, beaucoup plus noirâtre, fait aussi qu'ils pourraient capter beaucoup plus les rayons du soleil. Mais bon, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais savoir, je pense. Pourquoi est-ce qu'un oiseau devient moins terne? Est-ce qu'il devient plus terne. Est-ce qu'il devient plus coloré pour la période nuptiale ou est-ce qu'il devient plus terne pour passer l'hiver ou un petit peu des deux en même temps? Ça, on ne saura jamais, je pense.
Un exemple d'oiseau local, c'est la mouette rieuse qui change de plumage en hiver, qui n'a plus sa tête et le cou
capuchon, hein.
Marron. Là, il devient blanc avec une petite virgule sur les joues.
Donc ça, c'est un contre-exemple de ce que je viens de dire.
Voilà, mais bon, c'est pour montrer qu'il change de plumage. Il y a pas plus clair.
Tu peux choisir un autre
plus clair, mais le plumage change selon la saison. Bah, donne-moi un exemple d'oiseau du coin qui devient plus terne en hiver. Tu as 2 secondes.
J'ai vu comme ça.
La radio a horreur du blanc.
C'est une bataille d'ornithologues à laquelle vous assistez.
Souvent le moineau, par exemple, le moineau domestique, il est souvent plus coloré en période. Enfin, les couleurs sont souvent plus différenciées quand même au printemps que l'hiver.
Il faut déjà être un bon spécialiste. Hein.
Tout à fait.
Alors
d'autres espèces, puisqu'il en faut.
Le moineau domestique pour pouvoir différencier.
On va passer aussi.
Je vais vous endormir devant. Alors, donc, effectivement, le fait de muer, le fait d'avoir les plumes qui gonflent peuvent être une parade pour faire face aux rigueurs de l'hiver. On remarque aussi qu'on a beaucoup d'oiseaux qui vont former des bandes, donc ils vont se regrouper. Alors, ce sont des... Généralement, c'est pas vraiment pour avoir plus chaud, je pense pas. Ils se tiennent pas entre eux. L'idée, ce serait surtout de pouvoir être plus fort face aux prédateurs. Donc, vous savez, évidemment, chez nous, les arbres perdent leurs feuilles durant la période hivernale. L'épervier peut voir beaucoup plus facilement les oiseaux. Et on pense, mais bon, là aussi, est-ce que c'est vrai, que beaucoup de petits passereaux vont se regrouper en période hivernale pour pouvoir justement être plus nombreux, avoir plus de perdus, en fait, pour observer s'il y a un épervier qui est dans les parages et pouvoir beaucoup plus facilement lancer l'alarme.
C'est le cas de l'étourneau sansonné, ça?
C'est le cas de l'étourneau sansonné, c'est le cas des mésanges, c'est le cas des moineaux, c'est le cas des chardonnerets, des linettes. Il y a vraiment énormément d'oiseaux qui vont se regrouper en bandes durant l'hiver.
Il y a même souvent le cas de plusieurs espèces proches qui s'assemblent. Par exemple, on parlait des mésanges. C'est pas exclusivement des bandes de mésanges charbonnières, par exemple, elles peuvent être rejointes par des mésanges bleus, des mésanges à longue queue, des mésanges noirs. Plusieurs espèces voisines se rassemblent pour la période, uniquement pour la période hivernale.
Alors, il y a un cas particulier, c'est celui des rapaces nocturnes.
Alors, le cas particulier des rapaces nocturnes, c'est vrai, parce que depuis tout à l'heure, on vous dit, la période hivernale, la plupart des oiseaux ne se reproduisent pas, ne défendent pas de territoire, ne pensent pas du tout à la période de reproduction. C'est pas trop le cas pour les rapaces nocturnes, donc tout ce qui est chouette et hibou. Donc, chouette et hibou, pour rappel, il n'y a que le français qui fait la distinction entre les chouettes et les hiboux. Dans la plupart des autres langues européennes, c'est le même mot. La chouette n'est pas la femelle du hibou, encore à ce que pensent beaucoup de personnes. Les chouettes, on les distinguerait un petit peu plus facilement. Enfin, on peut les distinguer des hiboux, mais c'est pas toujours vrai non plus par la présence. Enfin, pour le coup, les chouettes ont l'absence d'aigrettes, donc de petites plumes sur le dessus de la tête. Les hiboux ont ces aigrettes. Donc ce ne sont pas les oreilles, hein, puisque les oreilles sont sur ce qu'on appelle le disque facial. Donc vous savez que les rapaces nocturnes ont une tête qui n'est pas qui est vraiment aplatie. Donc les oreilles sont à l'extrémité de ce disque facial, ça fait un peu comme une parabole. Chouette et hibou, effectivement, sont des oiseaux qu'on va voir assez souvent chanter et défendre un territoire à partir de novembre-décembre. Pourquoi? La plupart des oiseaux, enfin quasiment tous les oiseaux, les jeunes, vont être autonomes à partir de, on va dire, un mois après qu'ils soient à peu près volants, voire même avant. Donc généralement, la plupart des jeunes, en août, septembre, les jeunes sont autonomes et peuvent vivre vraiment tout seuls, sans l'aide des parents. Chez les rapaces nocturnes, alors non pas qu'ils ne soient pas autonomes, mais apparemment, les jeunes resteraient beaucoup plus longtemps en compagnie des adultes. Et pour pouvoir préparer au mieux la période de reproduction. Alors la plupart des rapaces nocturnes se reproduisent quand même assez tôt dans l'année, hein. La plupart c'est quand même février-mars, la plupart déjà se reproduisent. Pour ça qu'on fait la nuit de la chouette généralement fin
et
fin
même mars. Cette année, enfin ouais, en 2013, vu que ça a été très froid, il n'y a pas eu de retard
chez les rapaces nocturnes. Je pense qu'on a eu quand même un mois de février qui était assez doux.
Ah oui.
Donc je pense que la plupart des rapaces nocturnes ont dû essayer. Il y a dû avoir un fort taux d'échec, mais je pense qu'ils ont dû essayer. J'ai entendu des jeunes d'hibou moyen duc à la mi-juillet cette année. Donc ça a quand même un mois de retard par rapport à d'habitude. Donc il y a de grandes chances, comme la plupart des oiseaux, que les rapaces nocturnes ont réessayé une seconde tentative de reproduction. Et donc du coup, la plupart des, enfin quasiment toutes les chouettes et hiboux de nos contrées vont commencer à défendre leur territoire dès la mi-novembre, mi-décembre, pour dire aux jeunes qui sont encore là, barrez-vous, maintenant il est temps de vous trouver un autre territoire. Et c'est souvent d'ailleurs l'automne, début décembre, c'est l'une des meilleures périodes pour observer la chouette effraie. Donc la chouette effraie qui est vraiment peut-être l'un des seuls rapaces qui est vraiment, enfin l'un des seuls rapaces nocturnes qui est strictement sédentaire, qui n'est vraiment pas en migration. On parlait d'ératisme tout à l'heure. La chouette effraie peut être plus ou moins erratique dans la mesure où les jeunes, quand ils sortent du nid, quand ils se font évacuer du territoire par les adultes, sont obligés de trouver un nouveau territoire. Et c'est là qu'on peut les voir parfois à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de leur lieu de nidification. Mais bon, c'est des paramètres assez spécifiques.
Au niveau des hiboux, notamment les moyens ducs, qui se réunissent également en dortoir l'hiver. Non.
Tout à fait. Vas-y, vas-y.
Voilà. Ils migrent très peu, mais bon, il y a quand même des. Au niveau chouette effraie, il y a des individus nordiques qui lors d'hivers rudes, peuvent se déplacer plus au sud. Hein. Notamment l'hiver dernier, on a vu des chouettes effraies au plumage beaucoup plus marron, qui apparemment seraient des individus nordiques, qui sont venus passer l'hiver chez nous.
Bon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément propre à une espèce, chaque individu
selon leur milieu d'origine.
Une autre espèce qui fait un petit peu office de non-exemple,
Ouais.
De contre-exemple.
Merci. C'est le rouge-gorge. Le rouge-gorge, on voit très très souvent des rouges-gorges en hiver, mais quand on en voit toujours qu'un, toujours un seul à la fois, on n'en voit jamais deux. Pourquoi alors? On vous l'a peut-être déjà dit, enfin vous le savez sans doute, parce que vous écoutez souvent nos émissions.
Pas du tout.
Mais le rouge-gorge, c'est la seule espèce en Europe où mâles et femelles vont arriver à chanter. Donc là, toutes les espèces européennes, il n'y a que les mâles qui chantent. Beaucoup disent les femelles ne font que crier, mais bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai.
C'est quand même un chant réduit.
C'est un chant réduit, mais c'est un chant quand même. Et on a malheureusement, enfin, quand on va en grande forêt, notamment en forêt des Perlecs, on a encore vraiment des très très beaux chanteurs. Où là, le chant est beaucoup plus mélodieux, je trouve, que les chants de chez nous.
Donc en fonction du milieu, ça chante plus ou moins bien.
Ça chante plus ou moins bien. Alors généralement, les bons chanteurs sont dans les bons milieux. Ce qui est logique. Puisque ce sont eux qui doivent avoir le plus de mal à défendre leur territoire. Et donc ce sont forcément les meilleurs chanteurs. Comme ils chantent bien, les autres oiseaux n'osent pas prendre leur place. Et c'est eux qui ont peut-être le plus de chances pour avoir les plus beaux territoires. On peut déceler des fois certaines différences. C'est pas flagrant à chaque fois, attention. Mais généralement, il semblerait que les oiseaux qui... Enfin, de toute façon, pour le rouge-gorge, je trouve que ça s'entend assez facilement. Si vous entendez un rouge-gorge en pleine forêt, c'est difficile à percevoir quand on n'a pas l'habitude. Hein. Mais quand on connaît bien le chant du rouge-gorge qui peut nicher dans des haies chez nous, le chant est quand même relativement court, il est assez mélancolique.
Assez plaintif, oui.
Dans les grandes forêts, le chant va être généralement beaucoup plus long. Alors, c'est à peu près le même rythme, c'est le même timbre, mais c'est quand même plus mélodieux, je trouve.
Bah, ceci dit, les forêts des Perlecs, c'est privé, hein. Faut pas trop.
Non, il y a une partie départementale.
Une petite partie.
Le Cosse, du même nom.
Voilà.
Donc, le rouge-gorge, effectivement, donc, c'est un oiseau qu'on va toujours voir à l'unité en période hivernale. C'est le seul oiseau qui va encore défendre son territoire, même en plein hiver. C'est vraiment un oiseau qui va être très territorial. Et même sur les mangeoires, Thierry le disait encore, sorti samedi à Wulverdingue, la sortie au clan de nature. C'est vrai que quand on voit des rouges-gorges aux mangeoires, on voit toujours qu'un seul rouge-gorge et généralement aucun autre oiseau à proximité.
Vous êtes toujours sur Radio Alain Spiegel et vous avez bien raison. On parlait de chant plaintif de rouge-gorge dans le genre plaintif. Voilà. Thank you. Je vous avais prévenu, hein, c'était vraiment plaintif. Et d'ailleurs, le titre le justifie, No Fun, par Ederos and Elberg, un morceau qui a été réalisé en 2002. Alors, le cri du Kivit, nous parlons ce soir des oiseaux en hiver. On a évoqué les différentes situations possibles. Premier réflexe humain, comment peut-on venir en aide à la biodiversité en hiver, hein, biodiversité qui fait...
Pas biodiversité, oui. On va
se limiter aux oiseaux.
À ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des vertèbres. Voilà. Donc, oui, ben, c'est vrai qu'on a tendance... La période hivernale, c'est une période pendant laquelle on a plus l'opportunité de voir des oiseaux de près, hein, qui viennent plus facilement dans nos jardins pour trouver leur pitance. Donc on a tendance à vouloir les aider pour qu'ils s'approchent le plus près possible de la fenêtre de la cuisine pour pouvoir les admirer plus facilement. Ça peut être une bonne chose en période vraiment froide, hein, lors des périodes de gelée, mais il faut de grand gel. Mais il faut faire attention à ce qu'on donne, quoi. Pas donner n'importe quoi et pas donner n'importe quand. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il y a pas mal d'oiseaux qui changent de régime alimentaire pendant cette période, qui passent du régime insectivore à un régime beaucoup plus varié. Donc, pour éviter de faire des bêtises, je pense que l'aliment principal, ce sont des graines.
Excuse-moi, peut-être avant de parler de l'aliment, peut-être parler du gîte, non
du gîte, ils se débrouillent. Hein, ils vont pas. Donc, de toute façon,
sont pas exigeants.
On apporte que le couvert et pas le gîte. Voilà.
Pas d'hôtel.
Les nids ne sont occupés que pendant la période de couvée. Que ce soit un merle ou une mésange qui occupe un nichoir qu'on aura mis à sa disposition, elle occupera ce nichoir uniquement pendant le moment où elle a des jeunes, des œufs à couver et des jeunes à nourrir. Après, dans la période entre l'été et l'hiver, ils vont plus rentrer dans le gîte pour se mettre à l'abri. C'est fini. C'est uniquement pour la reproduction. Donc, d'autant plus en hiver, ils n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin. Ils n'utilisent pas ce genre d'abri pour...
Ouais, je voulais évoquer les gîtes naturels, par exemple. Hein. C'est préservé.
C'est sûr que ils vont chercher un endroit à l'abri du vent. Moi, je donne un exemple personnel. C'est que j'ai un mur qui est plein de lierre. Et quand je vais dans mon jardin l'hiver assez tard, j'entends qu'il y a du monde derrière les feuilles. Quoi. Ils se mettent à l'abri sur les branches de lierre, à l'abri du vent, vu qu'ils gardent ses feuilles l'hiver. Par exemple, on parlait des hiboux moyen-ducs tout à l'heure qui se regroupent aussi en dortoir. Et là, c'est peut-être pas un bon exemple parce que même en printemps, ils vont occuper souvent des conifères, mais ils se mettent encore souvent en groupe dans des conifères qui gardent leurs aiguilles l'hiver, quoi, pour limiter les rigueurs de l'hiver, le vent surtout, et ils vont chercher un endroit plus ou moins abrité.
Et pour éviter aussi que les autres petits oiseaux les découvrent, les houspillent toute la journée, puisque ça reste quand même des becs crochus, donc des rapaces. Et effectivement, même si des mésanges tombent sur un hibou moyen duc, même s'il ne risque rien du tout, la mésange aura quand même peur et va quand même l'harceler à longueur de journée. Donc effectivement, de pouvoir passer la journée dans un endroit qui est protégé du vent, mais qui les protège aussi de la vue des autres petits passereaux, c'est toujours plus intéressant.
Donc on dit ne pas leur offrir l'hôtel, mais d'un autre côté tu dis il faut garder quand même le lierre, les arbres, certains arbres, il faut quand même leur offrir quelques végétaux pour se planquer.
Oui, voilà, mais c'est
un jardin tout nu.
Naturel, quoi. Ouais.
Ouais, si on a un jardin tout nu, on risque pas d'avoir beaucoup d'oiseaux.
Ça limite, mais là aussi, hein, ça dépend des espèces. Hein. Par exemple, on parlait tout à l'heure des grandes bandes des tourneaux. Là, ils vont occuper les arbres comme c'est la période hivernale, il n'y a plus de feuilles dessus, donc ils ne vont pas chercher vraiment à s'abriter. Quoi. Ils vont occuper des arbres par centaines, voire par milliers. Là, je pense que ces espèces-là sont quand même proches l'une de l'autre, donc ils doivent quand même avoir un effet de groupe au niveau chaleur.
Il y a toujours un petit espace entre deux étourneaux, quand même.
Ouais,
Et souvent, ça se bagarre pour avoir les meilleures places. Hein. Et c'est souvent les premiers arrivés qui sont les mieux logés.
Et il faut savoir que, contrairement à nous, les oiseaux sont très peu sensibles au froid, même aux très basses températures. Du moment qu'ils ont eu l'occasion pendant la journée de prendre suffisamment de nourriture, des calories suffisantes pour passer la nuit, et ils peuvent avoir des températures très basses, ils résisteront.
Et au niveau de l'eau,
il faut qu'ils prennent énormément de calories pendant la journée. Je ne sais plus le pourcentage selon les oiseaux, ça peut être jusque presque la moitié de leur poids qu'ils ont besoin de manger dans la journée pour pouvoir passer la nuit quand les températures sont très basses.
Et au niveau de l'eau, en fait, on peut quand même leur donner de l'eau à boire qui n'est pas gelée. Parce qu'en fait, quand il fait moins 15, c'est le problème.
Le doigt sur un point essentiel. Beaucoup de gens pensent à nourrir les oiseaux l'hiver, mais très peu pensent à leur fournir de l'eau. Et c'est vrai qu'ils en ont un besoin vital également. Donc, bien sûr, l'eau, quand les températures sont négatives, elle gèle assez rapidement, mais il ne faut pas hésiter à changer régulièrement. Surtout pas mettre de produits antigènes, ça les tuerait. Non, mais on voit ça parfois, pas mettre d'alcool, pas mettre de produits antigènes. Même de l'eau chaude, c'est pas une solution très...
Non, ça veut retarder le problème, c'est tout.
Voilà, ouais.
Après, il faut peut-être choisir le contenant pour que ça gèle un peu moins vite. Sur la couleur, ou tu as des contenants qui vont... En fait, quand on voit que ça dégèle sur du noir, on met un contenant noir pour mettre de l'eau.
Il faut des récipients peu profonds, parce que même l'hiver, ils aiment se baigner. Et il ne faudrait pas qu'ils se noient, qu'ils puissent remonter facilement. Et surtout, qu'il n'y ait pas trop d'écart entre le bord de l'eau et le bord du récipient, pour pas qu'ils doivent descendre dedans et qu'ils ne puissent plus remonter. Sinon, la couleur, je ne pense pas que ça a beaucoup d'influence. Éviter de mettre des récipients en terre. Genre dessous de pots de fleurs, quelque chose comme ça, qui pourrait geler, enfin avec le prix dans la glace, qui pourrait se fendre facilement. Donc plutôt un récipient métallique, en fonte ou en... Moi, ce que j'utilise chez moi, c'est des vieilles poêles. Donc c'est bas, c'est en ferraille, il n'y a pas de souci. Et en plus, quand c'est gelé, je prends la glace, je la mets sur le feu, ça dégèle et je remets dehors.
Ah, voilà. Pas con Jean-Pierre, pas con.
Moi, c'est terrible.
C'est vrai que généralement je mets plutôt les bacs d'eau au soleil déjà pour qu'ils gèlent un peu moins vite. Et c'est vrai que moi je prends plutôt des trucs, bon c'est en plastique, c'est pas génial, mais c'est plutôt noir pour que ça fonde plus vite.
Oui, c'est vrai.
Si je prends du rouge, ça fond moins vite.
Ouais, c'est une grande théorie là.
On a la neige qui fond, c'est généralement là où tu as un support noir en dessous pour ça garde la chaleur plus longtemps.
Bien vu.
Ça ralentit le refroidissement.
C'est évident. Alors effectivement, donc avant de penser à donner à manger aux oiseaux l'hiver, surtout n'oubliez pas que le plus important c'est d'avoir un jardin qui soit finalement bien structuré. Si vous avez une grande variété d'arbres, si vous avez des petits arbres avec à côté de ça des vieux arbres, des grands arbres, si vous avez du bois mort, si vous laissez les feuilles tomber naturellement au sol et se décomposer naturellement, si vous laissez toutes ces zones finalement qui font qu'on a des habitats intéressants pour les oiseaux, c'est toujours plus intéressant pour eux.
Laisser la nature faire, quoi.
Laisser la nature faire, tout à fait.
Alors, on peut intervenir indirectement en plantant par exemple des arbustes qui donneront des fruits à cette saison hivernale. Je pense aux viornes, aux bourdaines qui donnent des baies tard dans la saison.
Les prunelles aussi restent sur l'arbre assez longtemps.
Les prunelles.
Oui, les prunelles, plutôt pour les merles, les pigeons, les étourneaux. Là, en parlant de viande, je pensais à une espèce qu'on rencontre de plus en plus souvent dans le secteur, qui s'appelle le jaseur boréal, qui se nourrit notamment de baies de viande. Et voilà, c'est une baie qu'ils peuvent encore trouver en période hivernale, en janvier, février, elle est encore sur les arbustes et ils peuvent faire une halte pour reprendre des forces.
Et l'une des lianes les plus intéressantes à ce niveau-là, c'est le lierre. Le lierre qui est en fleur maintenant, qui va du coup fleurir très très tard dans l'année, qui va donner des baies généralement en janvier-février, à une époque où on trouve quasiment plus rien dans la nature. Mais c'est vrai, si vous avez des aubépines, des pruneliers, même des pommiers, c'est toujours intéressant. Et si vous avez vraiment une diversité d'arbres, alors même si on n'a pas vraiment des fruits à proprement parler comme nous, mais des aulnes, les aulnes sont quand même par exemple très intéressants, les bouleaux aussi. Nous on peut pas en profiter parce qu'on peut pas les manger, mais les oiseaux généralement en raffolent. Et au plus on a une diversité d'espèces d'arbres dans son jardin, au plus on aura des étalements dans la fructification, et donc au plus on risque d'offrir la nourriture pour un grand nombre d'oiseaux sur une grande période de l'année.
Ouais, l'aulne et le bouleau, ça produit des minuscules graines qui seront fort appréciées par des... Bon, le plus logique par rapport à l'aulne, c'est le tarin des aulnes, mais aussi les mésanges hein, qui vont les passer d'une strobile à l'autre. Strobile, c'est le fruit de l'aulne, ça ressemble à une petite pomme de pin, c'est là-dedans qu'on trouve les minuscules petites graines.
Je vous rappelle qu'on a deux invités ornithologues, donc on nous a parlé de strobile.
On notera sur nos tablettes oui. Pour la prochaine dictée.
Voilà, on en parlera peut-être à la prochaine émission consacrée aux arbres.
Oui, certainement. Oui.
J'avais juste une question Thierry, c'est les fruits des aulnes, est-ce qu'il y a un oiseau qui les découpe et qui part avec ou... En fait, ils ne déplacent pas les fruits, ils les mangent directement dessus.
Oui, si tu parles de l'aulne, c'est des minuscules graines, donc
il prend sur l'arbre.
Voilà. Ouais.
D'accord.
Je me demande si le pique-et-pêche ne le fait pas de temps en temps.
Ah oui, parce que je demandais, parce que j'avais trouvé un endroit où il y avait plein de petites... Enfin, les petits fruits déjà découpés. Donc je me demandais pourquoi...
Ça peut être ramassé aussi par des campagnols. Je sais que certains mammifères peuvent aussi raffoler de ces fruits-là et les stocker dans des endroits bien précis pour les manger pour la suite.
D'accord.
Est-ce qu'on peut donner du pain, Thierry ?
C'est pas du tout recommandé, non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, même le pain sec, parce que ça gonfle dans l'estomac de l'oiseau et il a l'impression d'être rassasié, mais...